Radio Kapi.
L'espoir pour la paix à Beni, c'est le message principal du groupe SLM Libende Boys de Beni, l'un des premiers à s'être produit hier au festival Amani à Goma. Et profitant de cet événement, la chef de la MONUSCO a échangé hier avec quelques responsables des organisations des jeunes du Nord Kivu. Au menu, l'analyse des efforts pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Madame Bintou Keita est notre invitée ce matin. Début hier à Kinshasa de la formation des formateurs des membres des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des gouverneurs des provinces à problème. Ce scrutin, la première pour le nouveau bureau de la CENI, doit crédibiliser les opérations à venir, a dit le rapporteur général adjoint de la CENI. Vous l'entendrez. Avant de développer ces titres, sachez tout d'abord que le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, François Béat, a été entendu hier par les services de l'Agence nationale des renseignements ANER, dirigé par Jean-Hervé Mbelou. Selon plusieurs sources, il y aurait des soupçons d'une conspiration au sommet du pouvoir en RDC qui était en train d'être orchestrée par des hauts gradés et personnalités, mais les services de sécurité ont été alertés et sont en train de démanteler le réseau, indiquent les mêmes sources. L'ONG ACAJ a aussi confirmé dans un tweet l'interpellation et l'audition de François Béat par des enquêteurs de l'ANER, affirmant aussi que les plus hauts responsables de ce service ont rassuré que toute la procédure a été conduite dans le strict respect des droits humains. Madame, Messieurs, bonjour. La 8e édition du festival Amani était à son 2e jour hier samedi. Artistes, experts, entrepreneurs, humanitaires, chacun a donné à sa manière les messages de paix sur le site du festival. Invité de cette édition, le groupe Street League Music, SLM Libende Boys de Beni, est parmi les premiers à s'être produit samedi. Son message principal, l'espoir pour la paix à Beni. Rosalie Zawadi a rencontré les membres de ce groupe après leur prestation et nous propose ce reportage.
On doit garder espoir, Beni, gardons l'espoir, gardons les minds positifs.
Croire encore et toujours au retour de la paix à Beni, c'est le message que vient de donner l'artiste négro du groupe SLM. À côté de lui, son collègue Maravella Arsène est content de voir son groupe associé à ce grand événement des plaidoyers pour la paix.
On est très content de participer à cette nouvelle édition du Festival Amani parce qu'on représente toute une jeunesse et nous sommes censés vendre l'espoir à notre jeunesse. On ne doit pas rester plaintif, on doit plutôt être positif, transmettre la joie à travers ces festivals qui représentent valablement notre région.
Sparo Vici promet pour sa part de toujours représenter la ville de Beni au Festival Amani et ailleurs.
Notre prestation a été un signe d'espoir pour notre ville de Beni et on pense qu'à chaque fois qu'on aura ces produits, ça sera pour notre ville. On est les ambassadeurs de notre ville et c'est dans un signe de paix et d'espoir que chaque jour on essaie de faire plus pour la ville de Beni.
Ce groupe a chanté la paix, mais aussi l'amour et ses tourments, car à Beni, il y a aussi de l'amour. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Et en même temps à Beni, on a enregistré d'autres victimes de la violence. L'explosion d'un engin explosif a fait 6 blessés hier après-midi au marché Mayangos, près de l'état-major de la police au centre-ville. C'est une jeune fille venue faire des achats au marché de friperie qui aurait marché sur l'engin qui a explosé. Celui-ci aurait été déposé par un inconnu dans un sac communément appelé Kavera. 5 personnes légèrement blessées ont été admises au poste de santé de la police en face, alors qu'une d'entre elle, grièvement blessée, a été acheminée à l'hôpital général. Sa vie n'est pas en danger, souligne un personnel soignant. Face à ce énième incident, la protection civile à Beniville invite la population à la prudence. Jean-Paul Capitoula, son coordonnateur, est au micro de Guylaine Kassassia.
C'était dans le goût de 14h30 lorsque un engin a explosé. Mais c'est dans un endroit où les femmes vendent des friperies. Il y aurait des blessés. Je rappelle toujours mes frères chaque jour. Lorsqu'il y a un danger comme celui-là, ce n'est pas cet endroit où il faut aller. La curiosité tue. Et encore que lorsqu'il s'agit des explosifs, il faut être plus prudent parce que les terroristes, ils ont besoin du grand nombre. Et donc, nous devons, nous tous, nous ressaisir. Chacun doit regarder bien ça fasse. Et encore une fois, c'est dire quand il y a une explosion, comment je dois me comporter. La seule façon de se comporter, c'est d'évacuer l'endroit, de laisser tous ceux qui sont spécialistes en matière de s'en occuper. Là où a explosé un engin, l'engin n'a pas des yeux pour dire que celui-ci est venu regarder, c'est un spectateur. Non.
Notez qu'une équipe du service anti-mine des Nations Unies, UNMAS, s'est rendue sur les lieux pour sécuriser l'endroit en retirant les débris de l'explosif. Le calme est revenu dans ce quartier administratif. Par ailleurs, une prise en charge psychologique sur le lieu d'un drame est nécessaire pour éviter les sidérations émotionnelles et d'autres formes graves. C'est ce que propose le neuropsychiatre professeur Dr Ali Njukendi. La question lui a été posée en raison des nombres de morts signalés au cours de cette semaine en RDC. Il explique aussi que les enfants sont des victimes directes et indirectes et ont besoin d'une prise en charge et d'un suivi régulier pour limiter les impacts négatifs dans leur avenir. Dr Ali Njukendi est au micro de Fulbert Balolagué.
Devant des tas de catastrophes, la première des choses, c'est le débriefing. Il faut déjà une prise en charge sur les lieux de l'incident pour aider les gens qui ont vécu ces traumatismes. Parce qu'on peut avoir parmi ces gens-là quelqu'un qui a eu présent des sidérations émotionnelles. Quelqu'un qui a vécu un tel traumatisme, il peut rester là, sidéré, sans faire quelque mouvement que ce soit. Vous aurez l'impression qu'il ne respire plus et que la personne est déjà morte alors que la personne est vivante. Donc, la première des choses, c'est un problème de l'État. Il faut faire descendre des gens sur les lieux, une équipe de psychologues ou de neuropsychiatres pour pouvoir faire d'abord le débriefing. Après, il y aura des gens qui présenteraient des états plus graves, des sidérations ou des états émotionnels très graves qui nécessiteraient par exemple une prise en charge médicamenteuse. En ce moment-là, ces personnes pourraient être orientées dans des structures de prise en charge.
Kasaï Oriental, cette vive tension hier dans la localité de Dilungu, groupement de Bakwaboa, dans le territoire de Katanda, plus ou moins 20 km de Mbujimayi. D'après les sources sur place, la population s'est opposée à l'investiture hier du chef d'un nouveau groupement créé après le découpage de l'ancien groupement de Bakwaboa. Les coups de feu ont été entendus, plusieurs barricades ont été érigées sur la route principale qui mène vers la centrale hydroélectrique de Tchiala. Le ministre provincial de l'Intérieur affirme que la situation sera examinée dès demain lundi. Explication Esther Ndalafina.
Il a été difficile de passer dans la localité de Dilunga ce samedi pour atteindre la cité de Tchiala, lieu où est installée la centrale hydroélectrique de la Miba. Plusieurs barricades ont été érigées dans cette localité par des hommes couverts de bandes rouges sur la tête munis de projectiles. L'entrée de la localité était bloquée, seule la sortie était autorisée. Les sources sur place indiquent que les habitants de cette localité s'insurgent contre le découpage en deux du groupement de Bakwaboa par le ministère de l'Intérieur et du projet d'investiture ce samedi du chef de groupement récemment créé. La même source indique que les autorités ont attribué plusieurs localités au nouveau groupement. Parmi ces localités, certaines sont réputées riches en pierres précieuses. Contacté, Denis Kalombo, ministre de l'Intérieur, promet d'examiner cette question dès le lundi prochain. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Le message de paix s'est aussi invité dans l'adresse du président Félix-Antoine Tshisekedi. Son discours de fin de mandat à la tête de l'Union africaine hier à Addis Abeba en Éthiopie, « Faire taire les armes sur notre continent demeure un impératif vital », a-t-il dit, ajoutant qu'il faut réellement passer de la parole à l'acte. D'autres détails avec vous, Noéla Luzi Tukabambi.
Selon le président sortant de l'Union africaine, il est grand temps de consolider l'architecture africaine de la paix et de la sécurité et d'assurer l'opérationnalisation générale et totale de la force africaine en attente. Il est impérieux, dit-il, d'arriver à mettre en place un véritable état-major intégré, comme le préconisait déjà Kwame Nkrumah, l'un des illustres pères fondateurs de notre organisation panafricaine. Félix Tshisekedi a rappelé les efforts entrepris pour relancer la dynamique des négociations tripartites entre la République d'Égypte, la République démocratique fédérale d'Éthiopie et la République du Soudan pour rechercher une solution constructive et durable aux différends autour du grand barrage éthiopien de la Renaissance dans la perspective d'un processus gagnant-gagnant, respectueux des intérêts respectifs et mutuels de ces pays frères. Par ailleurs, ajoute le chef de l'État congolais, dans des situations de guerre et des conflits aigus qui ne cessent de menacer la paix sur le continent, les femmes et les enfants figurent parmi les grandes victimes, notamment du fait des viols et des violences sexuelles basées sur le genre. Selon Félix-Antoine Tshisekedi, son mandat à la tête de l'Union africaine a tenu à encourager tous les pays africains au lancement officiel et effectif de la campagne « Tolérance zéro immédiate » contre les crimes de violence sexuelle et de violence basée sur le genre. Le président de la RDC a aussi évoqué les efforts entrepris pour développer dans sa fonction de représentant et porte-parole de l'Union africaine une diplomatie de présence active, de l'accroissement de la visibilité et de la promotion des intérêts légitimes de l'Afrique au sein des plusieurs enceintes internationales et dans les rencontres avec les partenaires stratégiques.
Je vous le disais en titre, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé hier à Kinshasa la session de formation des formateurs des membres des bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC pour l'élection des gouverneurs des provinces à problème. Parmi ces provinces figurent entre autres le Bazouélé, le Olomami, l'Ituri et le Kasaï central. Paul Moindo, rapporteur général adjoint de la CENI qui a présidé cette cérémonie, appelle tous les candidats à cette formation à mettre à profit leur savoir-faire. C'est pour que cette élection, qui est la première pour le nouveau bureau de la CENI, crédibilise la suite des opérations, a dit Paul Moindo au micro de Paul Matendo Mayamba.
C'est en fait avec vous que va démarrer cette vision qui devra aboutir à l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Vous êtes des formateurs attitrés. Je vous encourage néanmoins de bien capitaliser cette énième opportunité de formation pour consolider davantage votre expertise. Et lorsque vous auriez emmagasiné suffisamment de connaissances, vous conviendrez avec moi que la retransmission au niveau le plus bas sera aisée. C'est pourquoi je vous exhorte d'aiguiser votre savoir, savoir-être, savoir-faire et savoir-faire-faire pour que cette élection, qui est la première pour le bureau actuel, prépare les jalons ou crédibilise la suite des opérations à venir.
Cependant, le président de la Commission électorale nationale indépendante a évoqué plusieurs contraintes susceptibles d'empêcher l'organisation en temps réel des prochaines élections en RDC. C'était lors de la publication jeudi dernier de la feuille de route du processus électoral suivi du calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs. Denis Kadima a fait allusion aux défis d'ordre sécuritaire, financier, légal, sanitaire, technique, logistique et bien d'autres. Le point avec Esther Ndalafina.
Par rapport aux défis d'ordre sécuritaire, la CENI attend du gouvernement le rétablissement de la paix dans certaines zones du territoire national pour faciliter le déploiement du personnel, du matériel ainsi que la collecte des données. C'est le cas de certains territoires de l'est du pays en proie à l'insécurité. Parlant des contraintes financières, la CENI souhaite que le Parlement, le gouvernement et les partenaires internationaux jouent chacun sa part pour le financement des élections. À cet effet, Denis Kadima a déploré la non-reconnaissance de l'autonomie financière de la CENI qui entache l'indépendance de son institution. Quant aux contraintes légales, la centrale électorale tourne son regard vers les différentes institutions du pays, la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux pour accélérer les réformes électorales en rapport avec l'élection du président de la République, les scrutins directs ou indirects pour l'élection des gouverneurs ainsi que la prise en compte des Congolais de l'étranger. De toutes les contraintes, la volonté politique reste un défi majeur qui doit être traduite par des actions concrètes du président de la République, du Parlement, du gouvernement, des cours et tribunaux, des partis et regroupements politiques, a indiqué Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Santé. Avec seulement 224 000 personnes vaccinées contre le coronavirus depuis le 19 avril 2021, la RDC est encore très loin d'atteindre l'objectif fixé de 50 millions de personnes vaccinées d'ici à 2023. C'est pourquoi le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a lancé un appel pathétique à la population afin d'accepter de se faire vacciner. C'était au cours de la conférence de presse qu'il a animée hier à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Le ministre Jean-Jacques Mbungani a par ailleurs précisé qu'actuellement, toutes les 26 provinces du pays sont touchées par la pandémie, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Ilali Coco.
Actuellement, toutes les 26 provinces du pays sont touchées par la pandémie, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. Le gouvernement de la République, via l'action du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, à travers son programme élargi de vaccination, a reçu différents vaccins, dont Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna et Sinovac, lesquelles sont maintenant disponibles dans 15 provinces. L'accessibilité des Congolais à ces vaccins leur permettra de se protéger pour éviter la forme grave de la maladie et de retrouver leur vie pré-pandémie. Ouverte à toute personne âgée de 18 ans et plus, en ce y compris les personnes âgées de 12 ans, cette vaccination cible plus de 50 millions de personnes d'ici 2023. À ce jour, nous comptons 38 276 personnes vaccinées pour la première dose, ce qui revient à 0,72%, et 224 958 personnes ayant été complètement vaccinées, donc 0,42%. Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre.
Le docteur Jean-Jacques Mbungani a par ailleurs rappelé qu'en plus de l'observance des règles barrières, la vaccination reste le moyen le plus efficace pour combattre le Covid-19.
Actualité Afrique Monde.
La nutrition et la sécurité alimentaire, c'est le thème que les dirigeants africains ont choisi pour la 35e édition de leur assemblée annuelle à Addis Abeba en Éthiopie, assise ouverte hier pour 2 jours. Comment sortir l'Afrique de sa dépendance alimentaire alors que le continent possède plus de 60% des terres arables du monde? Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, hôte de l'événement, préconise aux chefs d'État d'utiliser les atouts naturels du continent et développer la production agricole, seul moyen de nourrir la population sans dépendre de l'aide extérieure. Dans son discours d'ouverture, il a appelé à faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène mondiale dans les grandes instances internationales. À cette 35e session de l'Assemblée annuelle de l'Union africaine, d'autres questions, notamment la sécurité, sont abordées par les chefs d'État et la clôture verra le Sénégal prendre la tête de la présidence tournante pour une année.
L'invité.
En séjour à Goma, dans le cadre de la 8e édition du festival Amani, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Bintou Keïta, a échangé hier avec quelques responsables des organisations des jeunes du Nord Kivu. Au menu, l'analyse des efforts pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Dans cet entretien avec Rosalie Zawadi, elle revient sur cette rencontre avec les jeunes ainsi que sa participation au festival Amani. Suivez.
Madame Bintou Keïta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Goma, dans le cadre du festival Amani. Vous avez échangé ce matin avec les jeunes leaders de la province. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre rencontre avec ces jeunes leaders?
Le festival Amani arrive à un moment où, il y a quelques jours, nous avons eu un massacre absolument horrible de plus de 60 personnes et aussi beaucoup de blessés. Donc dans un moment vraiment très difficile. Et moi, ce que j'ai retenu de ce que les jeunes ont dit ce matin, c'est ça, c'est le dilemme. Est-ce que tout doit s'arrêter parce qu'il y a la concomitance de la douleur et des souffrances, ou est-ce que aussi se mettre ensemble, c'est être déterminé, être courageux pour dire que le chant, la musique, l'art est aussi une autre façon de contribuer à la paix et d'attirer l'attention des uns et des autres que dans le moment de l'espace-temps du festival, eh bien, c'est un espace qui efface les différences, qui efface la notion d'être d'une tribu ou d'une autre tribu. Les jeunes ont même dit, pendant qu'on est en train de chanter ensemble, même de danser ensemble, on n'est pas en train de se dire qui a de l'argent, qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, qui n'est pas pauvre, parce qu'il y a un élément unificateur d'être ensemble pour avoir cet espoir qui est qu'un jour, le Congo, l'est du Congo, n'aura plus besoin probablement de ce type d'espace de gestion des traumatismes parce que ceux qui sont les acteurs des agressions et des violences extrêmes, comme l'ont dit les jeunes, sont aussi des jeunes qui, parce qu'ils ont des griefs et n'ont aucun espoir, prennent les armes et massacrent leurs frères, sœurs, voisins, voisines, etc.
Alors, Madame Bintou, vous avez échangé avec ces jeunes, mais vous avez également été sur les sites du festival. Que lisez-vous sur les visages, non seulement des jeunes, mais également des festivaliers qui participent au festival Amani?
Bah, écoutez, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les visages, les gens sont engagés, Ils sont contents d'être là, dans cet espace, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et lorsqu'il y avait de la musique qui passait, on avait une foule absolument immense en train de regarder, d'écouter les animateurs, justement, sur la scène. Donc, on sent bien qu'il y a un besoin quelque part aussi de cela durant cette période où l'état de siège est en place, il y a le couvre-feu qui est en place. Bah, c'est un moment où quelque part il y avait aussi de la joie qui s'exprimait sur les visages des gens. Et puis, j'ai participé à un panel sur qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat et la culture et l'entrepreneuriat dans la consolidation de la paix. Et là aussi, à la fin de la discussion du panel dans lequel je participais, les jeunes sont venus et ont dit « on veut une photo ». Et ces jeunes n'étaient pas du tout dans de la tristesse. Et dans ce contexte, je me dis que beaucoup de mes lectures, c'est que, encore une fois, concomitamment à la douleur, à la souffrance, il y a aussi une volonté de vivre, une volonté de pouvoir rire malgré tout.
Rire malgré tout. Madame, le festival Amani prend fin ce dimanche. Quel message vous aurez à donner à la population pour travailler pour la paix?
Je pense que je vais reprendre l'expression des jeunes que j'ai rencontrés ce matin. La paix, c'est la responsabilité de tous.
Madame Bintou Keïta, merci.
Merci.
La chef de la MONUSCO répondait aux questions de Rosalie Zawadi. C'est la fin de ce journal, coordonné par Noëlla Luzi Tukabambi, supervision de Martin Sebujangwe. Merci de nous avoir suivis.